Il est 7h41 et on m'a posé cette question hier au bureau. Est-ce que c'est toi qui as eu l'idée de faire une émission sur le sexe pendant les vacances de Noël? Parce que c'est plutôt l'été d'habitude. Eh bien, le fait est que ce n'est pas tout à fait faux. En tout cas, ça ne l'a pas toujours été. Longtemps, le sexe fut relégué soit dans les numéros spécialités des magazines, soit dans la presse féminine. Mais les choses sont en train de changer. Ainsi, depuis 2015, le journal Le Monde publie une chronique hebdomadaire sur la sexualité. Et son auteur est justement avec nous. Bonjour Maya Mazorette.
Bonjour Hervé Gardette.
Vous êtes journaliste, chroniqueuse donc pour Le Monde sur les questions liées au sexe et à la sexualité, mais également pour des magazines comme GQ, Uzbek Erika, on va peut-être pas tous les citer. Vous publiez justement un recueil de vos meilleures chroniques aux éditions La Martinière, Le sexe selon Maya, au-delà des idées reçues. Et puis un deuxième livre qui compte d'ailleurs aussi pour deux, on pourrait presque dire que vous en publiez trois dans les prochains jours, Sortir du trou, Lever la tête. J'ai eu cette petite hésitation parce qu'il faut retourner le livre qui se lit dans les deux sens. Et c'est publié dans la collection Sex Appeal chez Anne Carrière. Vous vous présentez, enfin je ne sais pas si c'est vous ou si on vous présente de cette manière, comme une sexperte. Qu'est-ce que c'est qu'une sexperte et en quoi ça, c'est différent d'un ou d'une sexologue par exemple?
Alors c'est différent parce que pour être sexologue, il faut avoir suivi des études et moi je suis journaliste. En fait, je suis chroniqueuse.
Et on c'est fait vrai pas d'études début, quand on est journaliste.
J'ai fait des études de journalisme, mais au début quand j'ai commencé à parler de sexualité, quand on a commencé à m'appeler sexperte parce que c'est un petit néologisme qui fonctionne bien, je me suis dit mais pas, c'est pas possible, je peux pas être experte en ça. Et puis finalement, il y a peut-être 5 ans, je me suis dit bon bah d'accord. Ok, très bien, sexperte, c'est clair, tout le monde comprend ce que ça veut dire. Et puis c'est vrai que maintenant, ça fait 15 ans que je parle de ça tous les jours, tous les jours, tous les jours, et qu'on développe en effet une expertise.
C'est quoi le masculin de sexperte, Maya Mazorette?
C'est sexpert, mais on n'est pas très nombreux en fait.
Ouais, c'est pour
on
ça que
est
je vous
principalement,
pose la question,
des, hein. Principalement des femmes. Il y a Damien Mascret qui est au Figaro, qui est le sexpert français, mais ensuite on est plutôt des femmes. Et il y a une raison à ça en fait, c'est qu'on imagine que si un homme parle de sexe, alors forcément c'est un pervers, qui va en fait faire ça parce qu'il y trouve un plaisir un peu voyeuriste. Alors que si on est une femme et qu'on parle de sexe, eh ben on est quand même un ange, et puis on imagine qu'on fait ça que pour la théorie et qu'on ne fait pas de pratique en tout cas.
Mais quand vous dites ça, ça veut dire que vous avez rencontré des hommes qui auraient pu être tentés par cette discipline et qui ne l'ont pas fait par peur justement d'être mal jugés?
Alors la discipline en fait elle existe seulement depuis 10-15 ans, c'est-à-dire que dans les écoles de journalisme justement il n'y a pas de cursus sexologie et on voit bien qu'en fait c'est aussi parce que le sujet est rentré de plus en plus dans l'actualité qu'on a eu besoin de spécialistes parce que qu'on parle de pornographie, de prostitution, du mouvement MeToo. Eh ben, on a besoin de compétences, bien sûr, mais on a aussi besoin d'une mémoire. Parce qu'en sexualité, on est aussi abreuvé de chiffres. Et c'est vrai que si on connaît pas l'étude qui a été faite avant ou l'étude qui a été faite dans un autre pays, eh ben, on a vite fait de raconter un petit peu des bêtises et de tomber justement, en fait, dans ces articles des magazines féminins ou des magazines de l'été où le sexe est forcément léger. Est-ce que c'est léger? Moi, j'en suis pas sûre parce que ça attrait un peu tout. L'économie, la politique, l'art et puis, bien sûr, alors tous les débats sociétaux qu'on a en ce moment.
Pour rester encore un instant sur la nature très genrée de la sexpertise, il se trouve qu'il y a eu un article tout récent dans votre journal, le journal Le Monde, sur justement le journal qui a interrogé un certain nombre de ses experts. Et il y a Ovidie. Alors Ovidie, qui est une ancienne actrice de film X, qui milite beaucoup aujourd'hui pour une pornographie beaucoup plus éthique et qui, elle, a une explication qui me paraît peut-être un petit peu différente de la vôtre, Maya Mazorette. Elle dit, s'il y a plus de femmes, c'est parce que le désir de faire ce qu'on veut de notre corps sans être jugé nous pousse à écrire et que ce désir-là, il existe moins chez les hommes. Donc il y aurait peut-être aussi un côté un peu militant, en tout cas, dans cette démarche-là. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, ou alors un côté un peu cathartique. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dont on parle beaucoup, c'est le slut-shaming. Alors en bon français, la culpabilisation des salopes. Désolée pour les mots grossiers le matin. Et c'est vrai que quand on est une femme, qu'on veuille pratiquer la sexualité ou qu'on veut même en parler, il y a quand même énormément de barrières à l'entrée. Moi, quand j'ai commencé, je me souviens, c'était en 2001, je dirais que la moitié des commentaires que je recevais, c'était justement pour me culpabiliser, pour dire qu'en tant que femme, j'aurais pas droit normalement de parler de sexe. Et quelque part, on n'est pas encore complètement sorti de cette période, parce que dans les commentaires du Monde, chaque semaine, je peux voir que se dessine en fait un espèce de portrait en creux de qui a le droit de parler de sexe aujourd'hui dans la société. Et en tant que femme, forcément, je ne parlerai que pour les femmes, ou alors que pour les hommes. En tant que jeune femme, je ne pourrais pas parler de la sexualité des vieux. Donc il y a une espèce de compartimentalisation comme ça, comme si en fait il n'y avait pas de savoir sexuel, et comme si chacun parlait un peu de soi. Et une fois encore, c'est un héritage de la vieille presse en sexo, où c'est un peu, bah, je raconte ma vie, c'est un peu Sex and the City en fait. Sauf que moi, dans mes articles, je parle jamais de moi en fait.
Sex and the City, pour celles et ceux qui seraient passés totalement à travers cette série. Alors ça remonte déjà il y a quelques années, c'était une série qui met en scène des femmes très libérées, on va dire, dans l'approche de leur sexualité. Enfin, libérées, pas tout le temps d'ailleurs. Et il y a notamment un personnage central qui s'appelle Carrie Bradshaw, bah, qui fait le même métier que vous. Oui. Je ne sais pas si d'ailleurs ça a été une source d'inspiration pour vous. En plus, je crois que vous vivez à New York, c'est
exactement.
Ça
Exactement, non, c'est un repoussoir total. Série. Non. Donc effectivement, ça montrait une image très glamour des sexpertes avec des talons aiguilles incroyables, des appartements de 200 mètres carrés dans le Village à New York. La réalité du terrain, c'est qu'on est payé comme des journalistes, donc pas forcément une fortune. Mais par contre, effectivement, le boulot est vachement intéressant parce que la sexualité, c'est... je sais qu'on en parle souvent de manière assez négative, comme si forcément c'était que les choses, justement, comme la pornographie, la pédophilie, la prostitution, donc des choses très négatives. Mais ça reste encore aujourd'hui... la modalité de l'expression de l'amour et du désir. Et moi, quand je me lève le matin, j'ai plutôt envie de penser à ça. Que le sexe, c'est pas que les scandales, c'est aussi des moments de plaisir, des choses aussi qui sont bonnes pour la santé, des choses qui sont bonnes pour le moral. Donc voilà, une espèce de... C'est comme en fait être critique gastronomique, je trouve.
Je reste encore un instant sur votre approche du métier, Maya Mazoret. Vous parliez de terrain. C'est quoi le terrain quand on est une sexperte? C'est-à-dire comment est-ce que vous documentez vos chroniques qui ont, je trouve, cet intérêt que n'ont peut-être pas toujours d'autres chroniques que vous évoquiez dans la presse féminine, par exemple. C'est-à-dire que c'est vraiment une approche journalistique de la question. C'est ça qui les singularise, à mon sens.
Oui, il y a plein de terrains, en fait. Parce que j'ai des copines expertes qui vont beaucoup dans les soirées, qui vont voir ce que les gens font. Alors, je sais pas, dans les milieux libertins ou BDSM. Moi, ce que je fais, c'est que j'ai le nez dans les livres, et notamment dans plein de publications qui existent partout dans le monde, dans les universités notamment, avec beaucoup de publications académiques. Et ça permet, en fait, quand on est journaliste, de pas parler de la sexualité un peu aspirationnelle qu'on pourrait imaginer, la sexualité des stars, la sexualité parfaite, et de toujours avoir le nez collé au réel, c'est-à-dire qu'est-ce que les gens font. Et il se trouve que c'est des chiffres qu'on n'avait pas forcément il y a 50 ans et qu'on commence à avoir de plus en plus, qui permettent de savoir pas seulement en fait combien on a de partenaires ou combien on a de rapports sexuels, mais aussi vraiment très précisément ce que les gens font. Et plus ça va, plus ces études sont détaillées, et plus ça me permet de dresser un portrait de la société sexuelle française qui, j'espère, est aussi juste que possible. Alors, mais qui sort pas de mon imagination, qui est, j'espère, la vraie vie.
Alors, dans votre recueil de vos chroniques, Le sexe selon Maya, vous fonctionnez par thématique. Et la première thématique que vous abordez, Maya Mazoret, c'est le corps et les organes sexuels. Est-ce qu'il y a encore des choses à découvrir, non pas sur peut-être l'existence de ces organes, mais sur leur fonctionnement? Est-ce que, je ne sais pas, la science, par exemple, s'en préoccupe et donne des éclairages nouveaux depuis, je ne sais pas, c'est quelques mois ou quelques années, en tout cas?
Ah, mais bien sûr! En fait, on a l'impression que notre corps, c'est quelque chose d'intangible, comme ça, qui est en adéquation avec un discours anatomique, par exemple. Mais alors, pas du tout. Par exemple, quand j'ai publié en 2009, donc ça nous rajeunit pas, La revanche du clitoris, à ce moment-là, on parlait pas beaucoup de clitoris. Mais c'est pas du tout fini, en fait. Parce que quand on parle du corps féminin, du coup, si on part du principe que le clitoris est aussi important que le vagin, alors on a un sexe féminin qui est à la fois interne et externe. Et le chantier suivant, c'est le corps masculin. Parce que quand on parle du sexe des hommes, on parle toujours du pénis. Mais le système génital, donc le sexe des hommes, c'est toute la tuyauterie interne, c'est aussi les testicules et c'est aussi bien sûr la prostate. C'est-à-dire que pour les hommes aussi, quand on dit le sexe des hommes, il est actif, il va vers l'extérieur, sauf quand on pénètre les hommes en fait. Donc on se rend compte qu'on a hérité de structures qui nous viennent de l'antiquité grecque et romaine, qui veulent que tout soit à l'intérieur pour les femmes, que tout soit à l'extérieur pour les hommes, et il se trouve que c'est pas vrai. Et si je peux rajouter une petite anecdote là-dessus.
Allez-y.
En anatomie, la face dorsale du pénis est côté ventre. La face ventrale est côté dos. Pourquoi ? Parce que la position anatomique standard du pénis, c'est l'érection. Et que des scientifiques aient décidé que par défaut, le corps d'un homme sera en érection, là on voit bien que c'est de l'idéologie, on voit bien que c'est de la politique. Et pour moi, c'est vraiment intéressant de faire ce boulot-là, parce qu'on se dit que quelque chose de si naturel que le corps, naturel, attention, hein, c'est pas si naturel que ça en fait.
Vous évoquiez le cas des testicules, c'est l'objet d'une de vos chroniques, Maya Mazoret, c'est un peu les mal-aimés, voire les malmenés d'ailleurs du sexe masculin. Qu'est-ce qu'on apprend par exemple sur cette partie du corps masculin?
Alors on apprend que les testicules sont le témoin de la virilité, parce que dans l'étymologie, Eh ben, ça veut dire testis, c'est les témoins. Donc en fait, les testicules pendant l'acte sexuel vérifient que le pénis fasse bien son boulot et ça leur donne finalement une espèce de position comme ça secondaire qui fait que c'est aussi aujourd'hui un petit peu oublié dans les rapports sexuels où on se dit l'homme c'est que le pénis. Et on a aussi des hommes d'ailleurs qui propagent ce genre de discours en disant voilà l'homme c'est facile, l'homme c'est simple. C'est un peu dommage en fait parce que la sexualité pourrait être tellement plus complète, tellement plus vaste, on pourrait avoir un répertoire sexuel incroyable si on rassemblait le corps des hommes et des femmes évidemment qui a beaucoup été découpé en morceaux. Mais là j'ai vraiment l'impression qu'en fait cette volonté en fait d'avoir des bases qui nous permettent d'avoir des choses qu'on sait faire nous empêche finalement de nous rendre plus vulnérables et de dire je vais peut-être essayer ça. Et sur les testicules par exemple c'est intéressant parce que quand on regarde si les hommes aiment qu'on touche cet endroit-là ou pas, on en a plein qui disent « Ah non, faut surtout pas toucher », ou alors il y en a qui disent « Si, si, il faut toucher ». Et on peut rencontrer des hommes qui aiment, par exemple, qu'on serre très fort. Et je sais que quand je dis ça, c'est très contre-intuitif, mais quand on parle de sexualité, il y a en fait un espèce de mouvement de balancier qui est que les gens voudraient savoir quels sont les chiffres, quelle est la norme, ce qu'il faut faire, comment est-ce que je peux être comme le voisin, et comme ça je suis légitime. Et une fois que moi je leur ai donné ces chiffres, je remarque que souvent, il y a une contestation immédiate des chiffres, en disant « Ah, mais pas moi, mais pas du tout, mon pénis ne fait pas cette longueur, mon rapport sexuel dure plus longtemps que celui du voisin. » Comme s'il fallait à la fois comprendre la norme, parce que ça nous rassure, et s'en éloigner immédiatement, parce qu'évidemment, on n'a pas envie d'être des statistiques, on a envie d'être des individus, parce qu'en sexualité, se joue quelque part une vision qu'on a de nous-mêmes qui serait la plus essentielle possible, qui serait la plus naturelle possible. Et évidemment, tout ça, c'est à déconstruire.
Vous ne donnez pas seulement des statistiques, Maya Mazoret, vous expliquez aussi le fonctionnement de certains organes. Est-ce que vous considérez que pour bien les faire fonctionner, il faut bien comprendre comment ils fonctionnent ?
Alors, en général, on obtient de meilleurs résultats dans tous les domaines si on a plus de connaissances. En sexualité, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a une espèce de prime à l'ignorance qu'on constate. Par exemple, dans le choix de nos partenaires, les hommes comme les femmes.
C'est-à-dire prime à l'ignorance ?
C'est-à-dire qu'on considère qu'il ne faudrait pas trop en savoir. Parce que si on en savait trop, quelque part, on serait en position, par exemple, de juger notre partenaire. Et j'ai l'impression, notamment pour les hommes et aussi pour les femmes, quand il y a plus de 2-3 partenaires sexuels dans une vie, on se dit, elle ou lui a trop couché, il en sait trop, comme si, en fait, la sexualité arrivait en quantité limitée et que si on en donnait trop, si on en dépensait trop, et à l'arrivée, il n'y avait plus rien à voir. Et on voit ça des fois chez certains couples qui se mettent ensemble et qui se disent « Ah ben non, on ne va pas tout de suite faire une fellation, une sodomie, parce que dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fera dans 2 ans ? Qu'est-ce qu'on fera dans 5 ans ?» Et ça, c'est intéressant parce qu'évidemment, il y a 1 million de choses à inventer. Et là, on se rend compte en fait que notre culture occidentale a dessiné un espèce de territoire du sexuel qui est assez limité et où il y a finalement la sexualité légitime. Alors c'est évidemment la pénétration vaginale. Et tout le reste qui serait un petit peu bizarre, un petit peu dangereux. Mais c'est dommage de penser comme ça parce qu'il y a plein de trucs à faire.
Tiens, alors à ce sujet et sur la question de savoir ce qu'il faut faire et à quel moment, je vous propose d'écouter un témoignage qui a été diffusé il n'y a pas très longtemps dans l'émission Les Pieds sur Terre de Sonia Kronlund. C'était le 11 novembre dernier, une adolescente qui raconte sa première fois.
Ma première fois, c'était quand j'avais 15 ans. Et j'étais avec mon copain depuis 3 semaines. On était chez moi et on s'était déjà vu, on avait déjà fait des préliminaires et tout ça, mais on n'était jamais passé à l'acte. Et pour nous, la fellation et tout ça, c'est des préliminaires en fait. Mais pas justement la pénétration, c'est autre chose et c'est justement faire l'amour. Et d'un seul coup, on était en train de faire les préliminaires et il m'a dit « j'ai envie de toi ». Et je l'ai regardé, j'ai fait « moi aussi ». Je comprenais pas trop parce qu'on était déjà en train de faire des trucs, donc je comprenais pas. Il m'a fait « non mais moi j'ai très envie de toi ». Et donc c'est là que j'ai compris que justement il voulait passer à l'acte. Et il m'a demandé si j'étais d'accord, je lui ai dit que c'était comme il voulait. Et voilà, on l'a fait et c'était cool. Par contre, j'avais un miroir orienté de façon à ce que je me voie. Donc c'était assez désagréable juste de me regarder et de voir que j'étais en train de faire l'amour. J'avais peur. Mais c'était marrant quand même. C'était marrant.
Voilà, je vous ai vu sourire, écarquiller les yeux à l'écoute de ce témoignage. Maya Mazoret, que vous en pensez quoi ?
C'est l'ascenseur émotionnel. Par où commencer ? Non, c'est très intéressant ce qu'il raconte. Alors, faut pas se moquer des témoignages des personnes de 15 ans qui héritent du monde qu'on leur donne. Elle différencie les préliminaires de l'acte. Elle dit que faire l'amour, c'est pas vraiment faire du sexe. Et évidemment, ça n'a aucun sens parce que préliminaire à quoi ? Forcément la pénétration vaginale. Et on sait bien que quand on est une femme, et là c'est une jeune femme qui parle, Environ un tiers des femmes arrivent à jouir seulement vaginalement, c'est-à-dire seulement par ce qu'elle appelle l'acte. Mais évidemment que la fellation, c'est un acte sexuel, alors jurisprudence Clinton, évidemment. Mais la masturbation partagée aussi, le massage, en fait, le sexuel, c'est tout ce qu'on en fait. Et c'est dommage parce que quand on explique que seul, alors faire l'amour, enfin que faire l'amour, c'est forcément la pénétration vaginale, et que seul ça est un acte sexuel, alors finalement, on délégitime tout un champ de pratiques qui sont vachement jouissifs, qui marchent très bien et qui des fois marchent mieux sur les femmes et qui marchent mieux sur les hommes aussi, au prétexte que ce serait pas suffisamment du bon sexe.
Et là, mais est-ce que cette jeune femme, cette jeune fille n'est pas un peu jeune pour avoir de toute manière une appréciation aussi globale de ce qu'est le sexe et la sexualité? À votre avis, vous excusiez d'ailleurs tout à l'heure en disant, vous avez prononcé le terme de salope en disant, peut-être que pour les plus jeunes de nos oreilles, ça peut être quelque chose qui va heurter. Ça sera peut-être d'ailleurs plus les parents qui seront dérangés. On verra bien si on a du courrier ou pas. Mais est-ce qu'il y a un âge pour commencer, d'après vous, à parler de ces questions aux enfants, aux adolescents?
Je vais vous faire une réponse un peu différente. C'est que si on n'en parle pas tôt, alors c'est la pornographie qui va le faire à notre place. L'âge moyen de la première consommation de pornographie en France en ce moment, c'est 14 ans et 5 mois. Et on n'est pas encore complètement sûr de ces chiffres. Par exemple, sur votre antenne France Culture, il y a la réalisatrice Ovidie dont vous parliez tout à l'heure, qui a fait une série dans une histoire particulière ou dans la série documentaire en 4 épisodes où elle est dans les collèges. Et on voit bien que les adolescents y rigolent en disant que peut-être des fois 10, 11, 12 ans, ils ont commencé à regarder de la pornographie. Donc moi, je veux bien qu'on parle pas de sexe aux enfants, mais quelqu'un d'autre leur en parlera. Et on se rend compte que quand les parents et l'école, qui se trouvent toujours jamais assez légitimes finalement pour parler de ce genre de sujet, quand les parents font le boulot, ça fait des enfants qui commencent plus tard leur sexualité, qui se protègent mieux et qui ont moins de problèmes de consentement. Donc allez-y les parents. Alors le problème évidemment, c'est que les gens là, ils se disent « mais comment je fais ?» Là, ce soir, entre le camembert et la salade de fruits. Non, il faut commencer, en fait, aussi tôt que possible, et évidemment s'adapter à l'enfant. Et l'enfant, en fait, il a plein de questions, il suffit de l'écouter. Alors, au début, ça va plutôt être comment est-ce qu'on fait des bébés. Ensuite, peut-être vers 10, 11 ans, quand on commence à avoir une vision de soi-même, comment est-ce que mon corps change? Parce qu'évidemment, aujourd'hui, les pubertés sont assez précoces. Et ensuite, seulement passer au sexe relationnel. Quand les gens disent qu'il ne faut pas parler de sexe aux enfants, ils imaginent qu'on va tout de suite justement parler de pratiques extraordinaires. Non, non, pas du tout, mais répondre à leurs questions. Et surtout, pas penser qu'on va préserver une espèce d'innocence des jeunes, alors que c'est une innocence, à partir du moment où ils ont un smartphone et ils vont à l'école, elle est fichue.
Ah, les enfants ont des questions, les adultes en ont aussi. Oui, c'est sûr. Quoi pour vous la grande question à laquelle vous aimeriez trouver la réponse aujourd'hui en matière de sexe? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un domaine qui reste encore trop mystérieux pour vous?
C'est une excellente question.
Enfin une. Et puis non, vous n'avez plus que 30 secondes.
C'est le jour où on pourra répondre à la question de qu'est-ce qui est naturel et qu'est-ce qui est culturel. Ça me plairait bien d'avoir la réponse à cette question-là.
Vous avez une vingtaine de minutes pour y réfléchir. Parfait. Peut-être. On se retrouve après le journal. Vous serez rejointe, Maya Mazorette, par la sociologue Nathalie Bajos, qui travaille sur l'étude des comportements, notamment des adolescents à l'égard de la sexualité. Je rappelle donc que vous publiez Le sexe selon Maya, c'est aux éditions La Martinière. Et Sortir du trou, lever la tête aux éditions Anne Carrière. France Culture, il est 8h. Et à 8h21 sur France Culture, nous continuons à parler de sexualité ce matin, de son actualité et de ses évolutions, notamment en termes de représentation, avec toujours Maya Mazorette, journaliste. Vous tenez une rubrique hebdomadaire, Le sexe selon Maya, dans le journal Le Monde. Les éditions La Martinière publient un recueil de vos 50 meilleures chroniques. Et puis par ailleurs, chez Anne Carrière, Sortir du trou, lever la tête, c'est un double essai consacré au désenchantement de la sexualité contemporaine et à son antidote, une sexualité optimiste, ludique et éthique. Et puis nous a rejoint dans ce studio Nathalie Bajos. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, chercheuse en santé publique, directrice de recherche à l'INSERM. Vous avez mené une enquête, enfin vous en avez mené un certain nombre, mais il y a un baromètre santé 2016, genre et sexualité, d'une décennie à l'autre. Est-ce que la sexualité, ses représentations, Nathalie Bajos, ont beaucoup évolué? Est-ce qu'en tout cas la décennie, c'est la bonne période pour essayer de mesurer les évolutions sur ce sujet?
Alors, Effectivement, je pense que les évolutions dans le domaine de la sexualité, si on parle soit des pratiques, soit des représentations, on a besoin de temps pour les voir. Tout ce qui se joue dans le domaine de la sexualité, c'est une pratique sociale, donc ça évolue pas comme ça d'une semaine à l'autre, ou voire même d'une année à l'autre. On a besoin de beaucoup de recul. En France, on a la chance d'avoir, c'est vraiment une spécificité par rapport à tous les autres pays, on a des enquêtes sur la sexualité depuis un certain nombre de temps. Je parle d'enquêtes scientifiques rigoureuses. Et depuis les années 70, à peu près tous les 10-15 ans, on a des grandes enquêtes sur la sexualité qui permettent de voir comment les choses évoluent au fil du temps. Et le titre auquel vous faisiez référence, d'une décennie à l'autre, on pourrait le mettre au pluriel, c'est depuis les années 70. On voit des tendances très nettes dans le sens d'une évolution marquée des pratiques sexuelles. Et s'il fallait synthétiser ces évolutions, on pourrait dire qu'il y a un rapprochement assez marqué entre les déclarations des femmes et des hommes au fil du temps, vers un rapprochement, même s'il y a encore beaucoup de différences entre les sexes, et je pense qu'on y reviendra. Et au niveau des représentations, en revanche, et c'est ça qui est vraiment intéressant et qui nous interroge en tant que chercheurs, les évolutions sont beaucoup moins nettes, c'est-à-dire qu'on est dans une espèce de paradoxe où les pratiques évoluent, mais les représentations restent assez stables et continuent d'opposer ce qui est valorisé pour une sexualité féminine et ce qui l'est pour une sexualité masculine. Alors bien sûr, il y a toute une série de changements, mais la grande tendance, si vous voulez, c'est cette opposition entre des pratiques qui évoluent et des représentations qui évoluent beaucoup moins et qui donc continuent à contribuer à ce que les femmes se sentent, en particulier dans des situations de ce qu'on pourrait qualifier un peu de tension contradictoire, parce qu'elles ont une vie sexuelle de plus en plus diversifiée, mais les représentations ne suivent pas.
Alors avant de revenir un peu plus précisément et d'essayer de comprendre pourquoi il y a ce décalage entre pratique et représentation, juste une parenthèse, vous disiez, la France, on est plutôt bien servi en matière d'études sur la sexualité par rapport à d'autres pays. Comment est-ce que vous expliquez ça? C'est lié à une histoire intellectuelle peut-être particulière autour de la réflexion sur la sexualité? Ça s'explique comment ?
En fait, il y a eu cette première grande enquête, le fameux rapport Simon dans les années 70, qui avait été réalisé donc par Pierre Simon et son équipe, qui était au lendemain de la légalisation de la contraception. Et cette enquête avait été conduite pour justement apprécier l'impact de la légalisation de la contraception sur les pratiques sexuelles. Il y avait quelques questions sur la sexualité, mais c'était vraiment la première enquête scientifique. Ensuite, la grande spécificité en France, c'est que la France dispose d'une agence nationale de recherche sur le sida, et qui, dès le début de l'épidémie en France, enfin 89, puisque c'est l'année où cette agence a été créée, a demandé la réalisation d'une grande enquête sur le sujet pour aider à guider les politiques de prévention. Et donc, on a fait cette première grande enquête en 1992, en fait la deuxième par rapport à l'enquête Simon, mais la première enquête avec une vraie problématique de sciences sociales et de santé publique, et puis elle a été répétée toujours à la demande de l'agence de recherche sur le sida en 2006, et on en refait une l'année prochaine, toujours à la demande de cette agence ANRS. Donc on a une particularité, c'est que ces enquêtes, contrairement à ce qui s'est passé dans d'autres pays, ont été sollicitées par les pouvoirs publics, financées par les pouvoirs publics et réalisées en toute indépendance par les chercheurs.
Alors j'imagine, Maya Mazorette, que ces enquêtes, elles vous servent pour votre documentation, et notamment celle que mène Nathalie Bajoz. Vous diriez quoi, vous retireriez quoi, vous, de ces enquêtes? Et peut-être déjà pour aller sur la question de l'évolution des pratiques sur les dernières années, qu'est-ce qui vous paraît le plus spectaculaire ou en tout cas le plus notable?
Oui, si je peux juste répondre au sujet des représentations dont on parlait juste avant, j'ai l'impression que ce sera pas très facile de faire évoluer des structures mentales dont on a hérité depuis des millénaires. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui considèrent que la structure même de notre pensée repose sur le fait qu'on soit dans la binarité. Il y a des hommes, il y a des femmes, et puis du coup, il y a des actifs et il y a des passifs. Tant qu'on reste accroché à cette binarité-là, ça va être très difficile de faire changer les représentations. Parce qu'on a des corps un peu découpés en morceaux, et puis aussi parce qu'on a des hommes qui sont censés faire tout, qui sont censés s'occuper de la séduction active, contrairement à la séduction dite passive. Et on a des femmes qui continuent aujourd'hui d'être culpabilisées quand elles prennent les devants, quand elles ont une vie sexuelle importante. Et tout ça, ça nous donne aussi les contes de fées. Et on a encore du mal, en fait, à créer les imaginaires qui seraient raccord avec la manière dont on fait l'amour aujourd'hui. Ensuite, pour répondre à la question sur les évolutions des 10 dernières années, s'il faut faire un petit peu un bilan de la décennie, je peux vous faire une réponse en 17 secondes ou en 17 heures, donc je vais faire la courte. On a vraiment remis en question beaucoup de choses, c'est-à-dire le sexe qu'on a, Déjà, c'est quoi avoir un sexe? Quel sexe? Est-ce qu'il y a des sexes au pluriel? Est-ce qu'on est sur une opposition ou sur quelque chose de plus continu? Ensuite, le sexe qu'on fait. Avec qui on le fait? Est-ce qu'on fait du sexe avec le spectre asexuel, par exemple? Comment? Est-ce qu'il y a du consentement? Est-ce qu'il y a une zone grise? Et puis, bien sûr, les représentations avec la pornographie, mais aussi des séries télévisées dans lesquelles il y a de plus en plus de scènes de nus. Donc, sur les 10 dernières années, je dirais qu'il y a eu une remise en question assez systématique d'absolument tous les domaines de la sexualité. Et je suis d'accord avec Nathalie sur le fait que moi, on me demande souvent c'est quoi la tendance sexe, comme s'il y avait des tendances printemps, été, automne, hiver. Non, évidemment que non, et évidemment que ça se travaille au temps long, mais ça ne veut pas dire qu'il se passe rien, ça ne veut pas dire qu'on fait l'amour comme nos parents ou nos grands-parents.
Elle vient d'où cette remise en question, Nathalie Bajos? Elle est provoquée par quoi?
La remise en question de la pensée binaire, si je reprends les termes qui viennent d'être évoqués par Maya. Alors, c'est tout un tas de... Je crois que, en fait, le point important, je crois, à comprendre, c'est que ce qui se joue dans la sphère de la sexualité, c'est pas du tout indépendant de ce qui se joue dans les autres sphères sociales. Et finalement, tous les rapports de pouvoir, les rapports sociaux de domination, qui structurent la société française, comme toutes les sociétés d'ailleurs, ces rapports construisent des rapports particuliers à la sexualité, aussi bien au niveau des pratiques que des représentations. Et c'est pour ça que les choses bougent difficilement, même si je suis tout à fait d'accord, il y a quand même un certain nombre de choses qui se passent. Et donc ces évolutions récentes, enfin qui ont plus de visibilité aujourd'hui qu'elles n'en avaient auparavant, sont directement le fruit de changements sociaux importants qui sont en dehors de la sexualité. Je pense en particulier à l'essor spectaculaire des scolarités féminines, à l'entrée massive des femmes sur le marché du travail salarié, à la légalisation de la contraception et à la dépénalisation de l'avortement. Tous ces facteurs ont modifié, complètement, mais ont fortement modifié les rapports entre les hommes et les femmes dans la société.
Mais ça veut dire, Nathalie Bajos, que vous faites un lien très direct entre ce qui est de l'ordre du politique.
Absolument.
Et ce qui relève de la sexualité, enfin, sachant que la sexualité a évidemment une dimension politique.
Le privé et politique, disaient les mouvements féministes dans les années 70. En dehors de ces mouvements sociaux que je viens de décrire très rapidement, il y a aussi une particularité qui explique cette remise en question de l'approche binaire dont on a l'habitude, effectivement, dès notre prime enfance. C'est tous les mouvements, LGBT, tous les mouvements sociaux, féministes, tous les mouvements gays, lesbiens, trans, etc., qui ont acquis beaucoup plus de visibilité, qui se sont davantage structurés ces dernières années et qui interrogent cette fameuse binarité femme-homme, masculin-féminin, qui était déjà interrogée par les anthropologues et les sociologues de longue date. Mais c'est vrai que ça a une visibilité sociale et politique et ça remet ça en question. Et pour autant, c'est vrai que ça existe, mais c'est, je dirais, encore à la marge dans certains milieux sociaux, intellectuels, culturels. Et il y a une très forte résistance politique à cette remise en cause de la binarité, parce que finalement, cette opposition, pour vraiment faire classique, production-reproduction, elle reste fondamentalement structurante du mode de fonctionnement de nos sociétés. Et tous ces mouvements qui remettent en cause cette approche binaire, les unes à l'affectivité et à la reproduction, les autres à la productivité, c'est quelque chose qui est tellement structurant de nos sociétés que c'est très difficile à remettre en cause. Et ces mouvements ont un caractère extrêmement subversif par rapport à cette structuration sociale.
Vous qui êtes sociologue, Nathalie Bajos, est-ce que vous diriez qu'il y a certains milieux sociaux ou certaines générations qui seront plus sensibles à cette remise en cause que d'autres? Ou est-ce que c'est plus compliqué que ça?
C'est évidemment très compliqué, mais oui, la sexualité, c'est une pratique sociale. Donc, je veux dire, la meilleure preuve, parfois, c'est quelque chose qui est un postulat de base, je dirais, pour les sociologues, que parfois certaines personnes ont du mal à comprendre. Mais je crois que la meilleure démonstration pour rendre compte à quel point la sexualité est une pratique sociale, c'est de voir les évolutions dans le temps et les évolutions et les différences selon les pays. Par exemple, sur l'âge au premier rapport ou sur le nombre de partenaires, pourquoi on aurait de telles évolutions s'il n'y avait pas une dimension éminemment sociale dans la sexualité. Alors, cela étant dit, quand on dit que c'est une pratique sociale, ça veut dire qu'elle est marquée, qu'elle est structurée par les rapports sociaux que j'évoquais à l'instant, les rapports de genre, bien évidemment, mais aussi les rapports de classe, les rapports de race, les rapports de sexualité, de domination de l'hétérosexualité sur les autres sexualités. Et donc, oui, tous les groupes sociaux ne réagissent pas de la même façon par rapport à des innovations et à des mouvements un peu subversifs de remise en question de cet ordre de pensée dominant. Et c'est pas spécifique à la sexualité. En général, les personnes qui disposent de davantage de capitaux culturelles en particulier, sont plus à même d'être critiques vis-à-vis de ces modèles dominants.
Est-ce que vous posez la question, vous, Maya Mazoret, dans le cadre de vos chroniques, du public auquel vous vous adressez ?
Ah, bien sûr. Dans le monde, on a un public qui a l'âge de mes parents, c'est-à-dire la génération des 68ards. Donc effectivement, un public auquel moi, personnellement, je n'appartiens pas. C'était un petit peu la même chose quand je travaillais pour France Inter. C'est à peu près la même chose pour Le Temps en Suisse. Et bien sûr, ça veut dire que d'habitude, dans les médias, on parle d'une sexualité un peu jeune, libérée avec l'échangisme, le BDSM, comme ça, le polyamour, ce genre de nouvelles pratiques, ou alors les sites de rencontres. Mais moi, je m'intéresse plutôt aux personnes qui sont en couple depuis 30, 40, 50 ans. Et leur sexualité est pas moins intéressante. Et ces populations-là sont pas moins traversées par les profondes remises en question dont Nathalie Bajos vient de nous parler.
Est-ce qu'il n'y a pas justement, alors, par rapport à cette nouvelle pratique sexuelle et ce public auquel vous vous adressez, qui ne les a peut-être pas adoptés, le sentiment d'une forme de ringardise, de se dire, bah voilà, moi si je ne suis pas, si on n'est pas dans un trouble, si on est dans un couple hétérosexuel, on est un petit peu ringard. Moi, je me souviens d'une chronique que vous aviez signée sur une forme de réhabilitation du missionnaire du samedi soir. C'est vrai que c'est quelque chose finalement qu'on retrouve assez peu dans les chroniques consacrées à la sexualité. On a l'impression que finalement les sexualités qui sont un petit peu marginales, alors si on les additionne, elles sont sans doute beaucoup moins marginales que je ne le dis, mais que et finalement la sexualité qui serait alors la plus répandue, finalement, apparaît assez peu dans la médiatisation.
Ouais, d'autant qu'il y a parfois une petite arrogance de la part des 68ards qui nous écoutent ce matin, j'en suis sûre, parce que ils ont vécu ce qu'ils ont appelé la révolution sexuelle. Donc ils ont l'impression que c'était génial à ce moment-là, parce qu'évidemment ils étaient jeunes, qu'ils ont tout changé, qu'il y avait une espèce de liberté sexuelle extraordinaire. D'ailleurs on le voit avec l'affaire Gabriel Masneff dont on parle en ce moment. Un espèce de moment où les plus grands noms de la pensée française pouvaient signer des manifestes pour faire sortir de prison des pédophiles. Donc, quand on arrive là à mon âge et qu'on dit bah il y a plein de choses différentes qui se font, il y a la privatisation de la rencontre, il y a les sextoys, il y a la technologie, il y a le polyamour, il y a les mouvements queer, et puis peut-être qu'il y a la transidentité aussi, on a l'impression en fait d'une révolution sexuelle qui à laquelle la génération de mes parents est très attachée et à laquelle ma génération trouve pas mal de manquements, et notamment justement en absence de remise en cause de la binarité. Et par exemple, malgré le fait qu'il y ait eu la légalisation de la contraception et de l'avortement, il y a eu en fait quelque part un manquement de changement des pratiques sexuelles, où on reste quelque part sur des techniques sexuelles qui servent avant tout à produire des bébés avant de produire du plaisir. C'est-à-dire que la pénétration vaginale, si on veut pas faire d'enfant, il n'y a pas particulièrement de raison de le faire au moins systématiquement. Donc oui, c'est agréable, mais par exemple, pour les femmes, c'est moins agréable qu'une stimulation à la fois du vagin, du clitoris, et juste d'embrasser son partenaire. Et ça, c'est difficile à dire pour les personnes plus âgées, de dire « oui, vous pensez avoir révolutionné la sexualité, mais vous avez révolutionné la reproduction et pas la sexualité ».
Qu'en pensez-vous, Nathalie Bajos ?
Je partage tout à fait ce qui vient d'être dit sur la centralité de la pénétration vaginale dans les, on appelle les scripts de la sexualité, et on le voit dans toutes les enquêtes, et c'est effectivement une pratique qui procure beaucoup moins de plaisir aux femmes que les caresses du clitoris. Pour autant, je crois que ce qui a changé, et encore une fois, je pense que je partage tous les exemples que Maya vient de donner, mais ça s'inscrit vraiment dans le long terme. Et ce qu'on voit quand on regarde les choses depuis le début des années 70, c'est vraiment une évolution continue, et en particulier une diversification croissante du répertoire d'activités sexuelles des femmes. Donc les choses évoluent, on pourrait souhaiter qu'elles évoluent davantage, mais encore une fois, c'est ce qu'on observe, ça reste marqué par des inégalités entre les sexes qui existent dans les autres sphères sociales et qui se retrouvent dans la sexualité. Mais ce que je voudrais dire aussi, et c'est une autocritique vis-à-vis des chercheurs et des chercheuses elles-mêmes, c'est que finalement, cette centralité de la pénétration qui a été, je dirais, renforcée par les enjeux de l'épidémie d'infection à VIH, on avait une vision assez épidémiologique de la sexualité et des risques qui s'y rattachent. L'épidémie d'infection à VIH, bien sûr, les autres IST, les grossesses non prévues, etc. Mais que finalement, on s'en est rendu compte, notamment dans la dernière enquête où on a regardé un peu en détail toutes les pratiques de sexualité non pénétrative et on s'est rendu compte que finalement c'était beaucoup beaucoup plus important que ce qu'on pensait dans la société française et que c'était pas du tout les fameux préliminaires pour se préparer à l'acte pénétratif entre guillemets. À la radio c'est plus difficile, normal, et que ça procurait énormément de plaisir aux personnes. Et donc en fait c'est vrai qu'il y a une espèce d'omerta qui persiste encore sur la grande diversité des pratiques sexuelles qu'on retrouve beaucoup plus dans les personnes qui ont une sexualité non hétérosexuelle ou non exclusivement hétérosexuelle et qui a besoin aussi d'émerger, d'avoir une visibilité sociale et politique.
Mais cette omerta, Nathalie Bajos, elle vient d'abord des femmes qui n'osent peut-être pas le dire, de le dire aussi clairement que vous le faites ce matin sur cette antenne. Est-ce que ça vient d'abord des hommes qui soit ne sont pas au courant, soit n'ont peut-être pas envie de l'être et d'essayer de comprendre comment fonctionne aussi la sexualité féminine, parce que peut-être que la pénétration répond à ces codes de la virilité qui remontent encore à des temps extrêmement anciens et qui sont très difficiles à faire bouger.
Oui, alors ça revient un peu tout. En tout cas, je dirais pas que ça, c'est pas la faute aux hommes ou la faute aux femmes. C'est effectivement encore une fois le fait que quand on pense sexualité, on pense rapport sexuel. Quand on pense rapport sexuel, on pense pénétration. Et quand on pense pénétration, on pense surtout pénétration vaginale. Et les hommes d'ailleurs plus que les femmes, autre type de pénétration, la pénétration anale en particulier. Je crois que c'est effectivement extrêmement complexe. Ça vient en partie mais pas que d'un problème de connaissance. Vous n'êtes pas sans savoir cette invisibilisation totale, quasi totale du sexe féminin et en particulier du clitoris, du plaisir, etc.
C'est plus le cas aujourd'hui.
Si, c'est toujours le cas.
C'est dans les manuels de SVT maintenant, alors c'est beaucoup relayé dans la presse.
C'est depuis peu dans les manuels de SVT, depuis très peu de temps dans les manuels de SVT. C'est effectivement, on en parle pas mal dans les médias, il y a eu des expositions, des affiches dans la rue, etc. Non, les choses ont incontestablement évolué, de toute façon ça pouvait pas être pire puisqu'on n'en parlait pas. Mais pour autant, de là à dire que on parle du plaisir féminin sans aucun problème et de manière aussi facile qu'on peut parler du plaisir masculin, la réponse est évidemment non, parce que ça renvoie à autre chose. Je disais, la connaissance est un point important, et heureusement qu'aujourd'hui on parle du clitoris dans les manuels de SVT, mais pour autant ça suffit pas si il suffit pas de savoir pour pouvoir avoir d'autres formes de sexualité. Je crois que la question de la diversité des sexualités est quelque chose de vraiment important et qu'il faut arriver à changer de paradigme et ne plus être dans un paradigme qui était quand même assez prévalent jusqu'à il y a peu, de la tolérance vis-à-vis des autres formes de sexualité, à faire passer l'idée qu'il n'y a pas une sexualité, il y a des sexualités, et que le seul critère qui compte finalement, c'est le consentement entre les personnes qui s'adonnent à des pratiques sexuelles, quelle que soit la sexualité, homo, hétéro, bi, etc., etc., etc. Et là, il y a vraiment un changement de paradigme à faire passer. Si vous voulez, c'est tout un système qui est en place. Et pour arriver à faire changer le système, il suffit pas de tirer sur une petite ficelle, il faut arriver à jouer sur plein de manettes au même moment. C'est pour ça que c'est difficile à faire bouger. Ça ne veut pas dire qu'on n'y arrivera pas.
Maya Mazorette, puisque vous savez faire des réponses en 17 secondes, qu'est-ce que c'est qu'une sexualité optimiste, ludique et éthique? Je dis 17 secondes parce que vous l'avez dit il y a 5 minutes.
Exactement. Ce serait une sexualité qui ne soit ni ennuyeuse, où on parle toujours de la routine, ni douloureuse, parce que souvent, quand on nous demande de pimenter notre vie sexuelle, on utilise pour ça des émotions qui sont plutôt désagréables, comme la peur, la douleur, l'humiliation, les insultes, les pratiques de dissolution de groupe. Et il se trouve qu'il y a un répertoire de la zone blanche qui va bien au-delà de l'ennui et bien au-delà de la douleur. Voilà.
Eh ben bravo, vous avez tenu le timing. Oui, Nathalie Bajos.
Si je peux me permettre d'ajouter quelque chose, c'est aussi penser que on n'est pas obligé d'avoir des pratiques sexuelles. On peut aussi être très bien à toute sa vie ou à certains moments de sa vie, et qu'il y a aussi cette injonction à avoir une vie sexuelle épanouie et heureuse. Alors, c'est très important de faire découvrir toutes les zones blanches et d'en parler comme le fait régulièrement Maya Mazorette. Mais le fait de ne pas avoir de sexualité, c'est aussi quelque chose qui est tout à fait normal.
Merci beaucoup Nathalie Bajos et merci Maya Mazorette. Le sexe selon Maya aux éditions de La Martinière. Sortir du trou, lever la tête aux éditions Anne Carrière. Merci à toutes les deux.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Chaque samedi sur France Culture, entrons dans une œuvre, une vie, Christine Bernard.
On l'appelait la reine de la soul. C'est l'une des plus grandes voix américaines de l'histoire. Tour à tour chanteuse de gospel, de jazz, de funk, de R&B, avec une carrière de près de 60 ans, Aretha Franklin demeure une artiste admirée et une référence pour la jeune génération américaine.
Aretha Franklin, pour que vous m'aimiez encore. Une vie, une œuvre, ce samedi à 15h et sur franceculture.fr.
8h42 sur France Culture, la mort d'un grand metteur en scène de théâtre, Claude Régis, disparu dans la nuit de mercredi à jeudi. Il avait 96 ans. Pour en parler ce matin, nous sommes en compagnie d'Arnaud Laporte. Bonjour Arnaud.
Bonjour Hervé Gardette, ça faisait longtemps.
Oui, ça faisait quelques mois qu'on ne s'était pas croisé dans un studio. Vous êtes le producteur de La Dispute, tous les jours du lundi au vendredi sur France Culture et c'est à 19h. Vous connaissez bien Claude Régis pour l'avoir souvent interviewé. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui n'en aurait jamais entendu parler ou en tout cas qui n'aurait jamais vu une de ses mises en scène?
C'était Est-ce que j'ai quoi, plus que 18 Claude... secondes
c'est ça Oui, un petit question. Peu plus.
Un tout petit peu plus, ouais, je vais en profiter. C'était quoi Claude Régis? Déjà, c'est quelqu'un qu'on pensait, je plaisante à peine, immortel, parce que c'était une présence tellement forte dans le paysage théâtral français que même s'il avait en effet 96 ans, c'est difficile à imaginer qu'il ne soit plus là, parce qu'il était aussi physiquement là, très présent, parce que si vous, je sais que vous êtes allé il n'y a pas si longtemps voir un spectacle de Claude Régis, il était dans la salle, parce qu'il était dans la salle à toutes les représentations de toutes les pièces qu'il a mises en scène depuis 60 ans. D'ailleurs, il était toujours assis à la meilleure place, ce qui fait que quand c'était en placement libre, il fallait se mettre le plus près de lui, parce que c'était là qu'on était le mieux pour voir son spectacle. Donc voilà, une place tout à fait centrale, une inspiration pour beaucoup de gens, quelqu'un qui a fait sa mue assez tard, parce qu'il a commencé, bon, il était comédien, après il a été assistant metteur en scène au théâtre de l'Atelier. Il disait que, je le cite, hein, c'était ses années passées endormies à l'ombre d'un maigre salaire, et puis quelque chose l'a réveillé. C'est la rencontre d'auteurs anglais, d'abord Harold Pinter. Il avait 40 ans, Claude Régis, quand il a fait sa mue, donc ça laisse espoir à pas mal de gens qui nous écoutent, qui n'ont pas encore atteint son âge. On peut commencer une vie.
Arnaud,
ouais, nous c'est fichu, mais ça on le sait depuis un certain temps. Pour vous et moi, Hervé, c'est foutu. Cette mue, il l'a fait. C'est quelqu'un d'autre qui m'avait raconté ça. C'est Jean Rochefort. Ils ont fait leur mue ensemble, figurez-vous, parce que ces années 60, c'était Claude Régis, Jean Rochefort, Delphine Zerig, qui créaient ensemble les pièces de Pinter, qui créaient ensemble la collection ou l'amant. Il y avait aussi Michel Bouquet dans la distribution et Hervé Gardette me fait déjà un signe.
Oui, parce que vous citez un certain nombre d'acteurs prestigieux. C'est vrai que c'est ce qui le caractérisait. Enfin, en tout cas, une de ses caractéristiques, c'était pas du tout un metteur en scène marginal. C'est-à-dire, il a monté de grands auteurs et avec des distributions souvent extrêmement prestigieuses. Enfin, quand on regarde la liste des comédiens qu'il a fait jouer, c'est assez impressionnant, Arnaud.
Impressionnant. Vous dites auteur prestigieux, Pinter, quand il le monte, personne ne le connaît. Marguerite Duras,
qui va le devenir.
L'autre,
il n'a pas encore le prix Nobel.
Il n'a pas encore le prix Nobel. Peter Handke, on va en parler dans un instant, il était loin d'avoir le prix Nobel. Marguerite Duras, elle était une auteure de théâtre plutôt débutante. Il avait monté les Viaducs de la Seine-et-Oise, qui était une première version d'un texte qui deviendra L'Amante anglaise, qu'il crée en 67, je crois, avec Madeleine Renaud, Michael Lonsdale. Il va recréer cette pièce quatre fois au fil des années et... parce que je sens que vous voulez en arriver là, mon cher Hervé Gardette. Et un spectacle mythique en 74, c'est La Chevauchée sur le lac de Constance, de Peter Handke, auteur certes appelé à devenir fameux, mais à l'époque à peu près inconnu. Et là, la distribution, elle est mythique aussi.
Ben, nous disons rien, tiens, on va écouter un extrait, si vous voulez bien, Arnaud.
Ça va, si on va reconnaître les voix?
Ouais, normalement, vous devriez.
Quelques-unes.
Vous avez quelque chose? Qu'est-ce que c'est? Rien de particulier, sans doute. Rien d'important en moi, ça ne vaut pas la peine d'en parler, n'est-ce pas?
Une épingle?
Une épingle? Vous ne voulez pas dire... l'épingle?
Si, justement.
Et elle existe vraiment? Ce n'est pas seulement une façon de parler?
Voyez-vous-même.
Tout concorde. Il ne manque même pas la tête rubis. Tout s'est réalisé.
Vous l'avez vu en rêve.
Quelqu'un en a parlé en rêve. Quand j'ai vu l'épingle, tout m'est revenu en mémoire. Et moi, qui pensais que ce n'était qu'un mot.
Elle a la chevauchée sur le lac de Constance avec...
Alors, par ordre d'apparition à l'antenne...
Samy Fray, Michael Lonsdale,
Jeanne Moreau.
Bravo, Mathilde Serrel.
La quatrième voix, c'était Delphine Seyrig. Et il manque quand même un petit jeune à l'époque, Gérard Depardieu.
Gérard Depardieu, qui à l'époque, évidemment, n'est pas du tout connu, il est en train, je crois, de tourner Les Valseuses.
Ouais, c'est pour dire le grand écart, mais Claude Depardieu, il aime ça. Mais pareillement, Gérard Depardieu a eu l'occasion de me parler quelques fois de Claude Régis. Il disait que c'est avec lui qu'il avait appris à parler, Gérard Depardieu. C'est vraiment important. Je pense que Mathilde Serrel en parlera aussi. C'était cette façon de faire advenir les mots autrement, Depardieu, rappelons quand même qu'il était à peu près autiste, quasiment mutique toute son adolescence. C'est par le théâtre, et notamment beaucoup, il y insiste, par Claude Régis, qu'il est devenu l'acteur qu'il est.
Et en 1977, justement, Claude Régis racontait sa rencontre avec Gérard Depardieu. Quand il le voit la première fois sur scène, il ne considère pas que c'est un acteur génial.
On m'avait parlé de Gérard, et il jouait à ce moment-là une pièce à la Gaîté Montparnasse à minuit. Et je suis allé le voir et je l'ai trouvé très mauvais. Mais je me suis dit quand même, je vais pas être dégueulasse, je vais quand même le voir dans sa loge. Et on est sorti dans la rue et on est allé au bistrot. Il a commencé à parler et ce qui s'était pas passé sur la scène s'est complètement passé là, dans la rue et au bistrot. Et je lui ai fait faire un essai avec d'autres acteurs. Et en l'occurrence, c'était une espèce de séance de pêche à la ligne. Et alors, tout d'un coup, il s'est mis à exister avec une telle intensité, avec cette canne à pêche qu'il inventait, qui n'existait pas. Et puis, tout d'un coup, c'était un pêcheur à la ligne, et en même temps, je sais pas, il y avait toute l'angoisse du monde contemporain, il y avait une sexualité fabuleuse, il y avait la folie, il y avait le désespoir, il y avait la vitalité. C'était une espèce de miracle vivant. Alors, je l'ai engagé immédiatement.
À la Claude Régis en 1977 à propos de Gérard Depardieu. Bon, Arnaud Laporte, oui. Il y a alors un phénomène qui semble-t-il est très à la mode aujourd'hui, c'est l'immersion, les expositions immersives, les spectacles immersifs. Claude Régis, quand on allait voir une de ses pièces, on était en totale immersion. C'était une vraie expérience sensorielle.
Alors, expérience sensorielle très importante, qui pouvait parfois un petit peu agacer. Moi-même, je l'ai été. C'est ce qu'on vous demandait, de faire le silence avant même de rentrer dans la salle pour les derniers spectacles.
Parce qu'il demandait ça à Arnaud Laporte, c'est quelque chose.
Vous en savez quelque chose vous-même, mon cher Hervé. Mais non, il y avait cette forme de rituel, donc qui pouvait agacer, mais en tout cas qui était très importante pour Claude Régis. C'est vrai qu'avant que les lumières ne se baissent, avant que le spectacle commence, il fallait d'abord un silence absolument parfait qui dure déjà plusieurs minutes avant que ça commence, parce que c'était pour lui, et je crois qu'il avait entièrement raison, Claude Régis, un sas absolument nécessaire entre le monde dont on vient, dont on venait, celui de notre journée de travail, et puis le monde dans lequel on allait entrer, celui d'une langue. Et il fallait entrer dans la langue. Donc, puis il y avait ces entrées en scène. Je me souviens, moi, pour moi, Aude Maritime a été le spectacle le plus abouti, le plus incroyable de Claude Régis. Un texte de Fernando Pessoa, joué par Jean-Quentin Chatelain, ça durait 2 heures. Et il y avait une lumière qui montait imperceptiblement. On voyait une silhouette se détacher, comme ça, qui montait quelques marches, posée sur une passerelle, et elle restait immobile pendant 2 heures. Comme Isabelle Huppert l'avait fait pour 448 psychoses de Sarah Kane. L'immobilité, pas comme gadget, mais pour vraiment qu'on entende et qu'on comprenne chaque mot qui nous arrivait.
Le silence, la lumière, l'immobilité et la lenteur. Mathilde Serrel, on a entendu que vous étiez avec nous en studio. Votre théorie culturelle ce matin, justement, vous la consacrez évidemment à Claude Régis et à son éloge de la lenteur.